le 6 décembre dernier. Un recours a été déposé au tribunal administratif d'Amiens par deux associations, Nord Nature Environnement et Protection du Territoire Seine-Escaut. Il s'agit de contester le projet de canal Seine-Nord Europe. On en parle avec Ptérois, membre du collectif Méga Canal Non Merci, un collectif qui apporte son soutien à ce recours. Il commence par nous rappeler les raisons de s'opposer à ce projet.
En fait, il n'y a pas de porte-parole dans le collectif, donc chacun donne un peu ses raisons personnelles pour lesquelles il est en lutte. Moi, je dirais qu'il y a au moins deux aspects. C'est que le canal, c'est un symbole de la mondialisation galopante, conquérante, d'un monde capitaliste destructeur. Hein, et donc, c'est pour ces raisons-là, moi, que je lutte contre le canal. Hein. Puis la deuxième raison, c'est que c'est réellement profondément destructeur. En termes de biodiversité, il prévoit d'artificialiser une grande partie des terres agricoles, enfin, plus de 3000 hectares de terres agricoles. Dans les Hauts-de-France, il y a 160 espèces protégées qui peuvent être endommagées, qui peuvent être dégradées. Donc c'est un projet profondément destructeur de la biodiversité. Donc voilà, la lutte contre la mondialisation et une croissance qu'on nous présente comme étant heureuse, et puis la protection de la nature.
Alors, après une série de consultations qui ont un peu franchi toutes les étapes, là, il y a une contestation de la part des opposants, contestation sur le plan judiciaire. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, bien sûr. En fait, c'est un projet qui a suivi toutes les étapes, je dirais, légales. Voilà. C'est absolument antidémocratique, mais c'est légal. Hein. Et donc, il y a une DUP, c'est une déclaration d'utilité publique qui a été signée il y a déjà un bon moment, qui a été modifiée. Il y a une autorisation environnementale qui a été signée par les préfets pour une partie du secteur, enfin pour une partie du parcours. Et donc c'est à ce moment-là que, en fait, les riverains, les gens qui habitent dans le coin, se sont rendus compte qu'il y avait des travaux qui démarraient, quoi, qu'on coupait des arbres et compagnie. Donc c'est vrai que légalement tout ce projet-là s'est fait un peu sous les radars, légalement, mais un peu sous les radars, ce qui fait qu'on s'en est pas rendu compte. Et donc là, il y a eu une signature de l'autorisation environnementale de poursuivre le parcours, enfin sur l'ensemble du parcours, hein, qui vient d'être signé. Et en fait, c'est le moment où on peut poser des recours contre ces autorisations-là. Sont assez limitées dans le temps, donc on a juste 4 mois pour pouvoir le faire. Ce qui fait que là, voilà, on a profité de cette fenêtre de tir, hein, de l'autorisation environnementale pour pouvoir le dénoncer et porter ses recours. Alors concrètement, en fait, t'as compris, hein, l'objectif c'est pas de faire un meilleur canal ou de faire un canal plus écolo et compagnie. L'objectif c'est de pas détruire et pas de faire d'agir pour une croissance heureuse et une mondialisation heureuse. Hein, on va pas résoudre les problèmes de la mondialisation en faisant plus de mondialisation. Donc les objectifs qu'on a suivis, en tous les cas les points qu'on a attaqués dans le recours, sont un peu tous les points qu'on a identifiés qui correspondent à des écarts à la loi du canal. Et comme c'est un projet qui est énorme, des écarts à la loi, il y en a tout un tas. Concrètement, il y a deux grands types d'illégalités qu'on peut attaquer. C'est ce qu'on appelle les illégalités externes, qui sont des illégalités sur le fond, et puis des illégalités internes, qui sont des illégalités par rapport au droit. Et donc, sur le fond, en fait, nous, ce qui nous a intéressé, c'est le fait que c'est un projet qui ne tient pas compte du réchauffement climatique, par exemple. Hein. C'est assez effarant qu'un projet qui nécessite beaucoup, beaucoup de flottes prennent comme hypothèse que le réchauffement climatique sera limité à 1,4 degré, alors que même l'État français nous dit qu'il faut se préparer à 4 degrés. Là, les simulations, c'est 1,4 degré. En fait, ils considèrent, par exemple, que le maximum qui puisse être rencontré, ça serait la sécheresse de 1976. où, bon, bien sûr, il a fait très chaud, hein, mais c'est juste ponctuel pendant une année. Pour eux, on ne peut pas imaginer plus que ça. Hein. Donc, ils n'imaginent pas que ça puisse se passer plusieurs années de suite. Ils n'imaginent pas qu'il puisse y avoir un hiver assez sec. Donc là, bah, on dénonce ça. Le fait qu'il y ait une insuffisance au niveau de l'étude socio-économique, hein, en fait, ils sont partis sur des hypothèses de croissance qui sont assez effarantes. Ils imaginent que la croissance du PIB sera continue et sera de 1,6% par an jusqu'en 2070, hein, ce qui leur permet de justifier économiquement le canal. Il faut d'ailleurs savoir que tous les discours qui disent que le canal permettra de réduire le trafic routier soit sont d'une grande naïveté, soit sont d'un grand cynisme. Parce que quand on regarde les chiffres, on se rend compte qu'en fait, les calculs de rentabilité du canal nécessitent qu'il y ait une croissance du trafic routier. Donc pour pouvoir justifier économiquement le canal, il faut que le trafic routier croisse de 0,88% par an jusqu'en 2070. Donc les gens qui imaginent que ça va réduire le trafic routier, c'est juste alors, soit des naïfs, soit des cyniques, mais parce que voilà, la logique, c'est qu'ils en ont besoin. Donc voilà, on dénonce une étude socio-économique qui est assez... d'abord qui date de 2004 et qui est assez... attaquable, hein, enfin en tous les cas qui ne tient pas la route. Le fait que c'est un énorme projet, il a été découpé en petits morceaux, ce qui fait qu'on n'en a pas une vision globale, puisque là on s'intéresse juste... il a été découpé en petits secteurs et on ne s'intéresse pas du tout aux autres secteurs, le fait qu'il y ait des ports intérieurs avec des surfaces énormes qui vont être artificialisées. On ne parle pas des rétablissements ferroviaires. Il faut savoir que ce projet-là va... aboutir à un remembrement sur 70 000 hectares. Enfin, c'est un remembrement énorme qui va entraîner, comme tous les remembrements encore, hein, de la disparition des haies, des zones un peu sauvages. Il y a également le fait que dans l'inventaire des espèces qui vont être attaquées, qui vont être perturbées, ils en ont oublié pas mal. Je disais tout à l'heure, il y a, je sais pas, 140, 160 espèces qui sont autorisées à être détruites, mais en fait il y en a une quarantaine qui ont été oubliées, des espèces végétales, des oiseaux, mais également des insectes, des batraciens, des reptiles, des mammifères. Il y a une quarantaine d'espèces qui ont été oubliées, hein, donc voilà, c'est pas une déclaration le fait qu'on dise que c'est destructeur. Et puis les illégalités internes, alors là c'est plus technique, hein, ça relève plus du droit sur des logiques de dérogation. On parle de raisons impératives d'intérêt public majeur, en fait. Hein. On dénonce le fait qu'en effet, il n'y a pas de raison impérative d'intérêt public majeur pour pouvoir faire ce projet-là. Et puis, du non-respect de la réglementation sur l'eau, sur les captages, etc. Voilà, voilà en fait, toutes les thématiques. Et bien sûr, on diffuse notre communiqué de presse ou notre résumé de notre cours à tous ceux qui veulent.
Le paradoxe, c'est comme tu l'as dit, c'est qu'il y a des travaux qui sont déjà fortement engagés. Alors du coup, est-ce que ces recours sont recevables? Est-ce qu'ils seront efficaces? Est-ce que aussi l'objectif, c'est qu'ils aboutissent ou c'est de ralentir aussi le mouvement? Comment tu vois les choses par rapport à ça?
Alors d'abord, les travaux... En fait, il faut savoir que les travaux n'ont pas commencé. Hein. C'est-à-dire que là encore, c'est du griffa, c'est du baratin. Les travaux n'ont pas commencé, c'est-à-dire que les travaux du canal n'ont pas commencé. Pour l'instant, ce qui a commencé, c'est des travaux de détournement de l'Oise. Parce qu'en fait, l'Oise, surtout au niveau au nord de Compiègne, a pas mal de méandres, et donc le canal passe sur ces méandres-là. Donc ils sont en train de... D'ailleurs, c'est pas encore fini. Hein, ils sont en train de déplacer l'Oise pour après pouvoir démarrer les travaux du canal en tant que tel. Et donc pour l'instant, ils ont abattu des arbres et puis ce qu'ils ont creusé, c'est le cours de l'Oise. Mais donc ces travaux réellement ont pas commencé. Bon, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que tous les grands travaux inutiles qui ont été arrêtés à un moment donné avaient déjà commencé, hein, et bien sûr les promoteurs à chaque fois ont pu dire que c'est trop tard parce que ça a déjà commencé. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir la fébrilité avec laquelle ils abattent les arbres. Je suis allé voir à Oppenschlossbach dernièrement, où en fait ils ont abattu des arbres alors qu'ils n'ont pas encore du tout, le chantier n'est pas du tout démarré, mais ils abattent des arbres, ils ont abattu des arbres également du côté de Compiègne, un petit bois qui s'appelle le bois de l'écureuil, comme ça pour pouvoir, je sais pas, nous mettre un peu devant le fait accompli, puisque bah, y a des recours et c'est normal qu'on laisse le temps au recours d'avoir lieu. Mais donc voilà, ils abattent des arbres pour donner un peu cette impression que les travaux ont démarré et que c'est trop tard. Mais en fait, non, c'est pas trop tard. Bon, puis donc là, nous, on a en fait ce recours, c'est quand même du recours sur du long terme, hein, puisque je crois qu'il n'y aura pas d'audition avant un an, parce que ce que dit le tribunal administratif d'Amiens. Mais il y a également tout un tas d'autres types de recours qui sont des recours en référé qui permettent, eux, d'avoir un impact beaucoup plus important sur le chantier. En fait, il faut savoir juridiquement que un juge ne peut pas arrêter le chantier. Il peut pointer des insuffisances ou des illégalités qui fait qu'après, bah, les promoteurs doivent répondre à ces insuffisances-là ou à ces illégalités-là. Mais il peut pas déclarer que le chantier est arrêté. Donc là, la démarche juridique n'est qu'un aspect de notre lutte. Hein. Bien sûr, il va falloir qu'on s'intéresse à d'autres aspects pour que, bah, en effet, il y a des gens qui prennent la décision d'arrêter ce chantier-là. Ouais. Et comme tu disais, enfin, à la fois se référer sur le fond, mais le recours sur le fond, mais les recours en référé sont là pour des bâtons dans les roues pour en effet faire en sorte que ça ralentisse, ça s'arrête, qu'il soit gêné, ouais, et donner le temps en fait de pouvoir trouver les bons relais pour faire arrêter ce chantier-là.
Dernière question, justement, tu parlais des différentes démarches. Il y a la démarche juridique, il y a aussi la construction d'un mouvement social, d'un mouvement de lutte, de contestation citoyenne. Où ça en est, ça? Comment tu vois les choses par rapport à cette construction-là?
En fait, ça prend du temps, tout ça. Hein, donc c'est pour ça que le juridique est utile pour ralentir les choses. Ça prend du temps, mais c'est vrai que là, on est en lien avec beaucoup d'associations. Le recours a été porté par deux associations, hein, Nord Nature Environnement et BTS Protection du Territoire Senesco. Mais au-delà des associations, c'est des collectifs. Bien sûr, il y a les soulèvements, il y a XR, il y a d'autres types de collectifs qui sont également en lutte contre des projets écocidaires et avec qui on entretient certaines relations. Oui, c'est des politiques, des maires de certaines communes autour du parcours, des organisations syndicales. Bon, tout ça, ça prend du temps, hein, et donc on œuvre activement de manière à ce que on soit nombreux, oui. Aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de greenwashing, il y a beaucoup de mensonges sur le canal. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui le croient de façon naïve, hein. Et donc, aujourd'hui, le sujet, c'est plutôt ça, c'est d'ouvrir les yeux, de regarder les choses de façon sérieuse, et de transmettre le message de manière à ce que tout le monde se rende compte que c'est pas un projet pour l'avenir, quoi. Hein, c'est un projet hyper technologique qui est pas robuste par rapport à un réchauffement climatique en cours, par rapport à des problèmes d'énergie fossile. Il faut savoir que c'est quand même un outil très lourd en termes de consommation d'énergie. Hein, ça correspond, l'énergie électrique consommée là pour le canal correspondrait à la consommation domestique d'une ville de 30 000 habitants. Donc c'est pas anodin, hein. Alors qu'en plus il existe des canaux. Aujourd'hui il y a déjà le canal du Nord qui est absolument sous-exploité, puisque quand il a été construit il a tourné à 6 millions de tonnes par an. Aujourd'hui il y a 2 millions de tonnes. Donc les gens qui nous disent que c'est un goulot d'étranglement, non, c'est pas un goulot d'étranglement. Le canal du Nord aujourd'hui n'est absolument pas exploité au niveau où il pourrait l'être. Hein. Ben voilà. Donc on en est aussi dans une phase de redresser le greenwashing et les désinformations qui sont diffusées par la société du canal.